Chaque plein de carburant de 20 litres ou plus chez Esso, c'est une chance de gagner un pass d'un mois à Bein Sport Connect. Vous imaginez ? Un pass pour un mois entier de sport ? C'est la possibilité de profiter de buts, de pénaltys et de tacles durant 30 jours ! Vous imaginez combien de mêlées et d'essais vous pourriez voir en 720 heures ou le nombre de smash en 43 200 minutes ?
Profitez-en à fond. Chaque plein d'au moins 20 litres dans une station Esso participante, c'est une chance de gagner un pass Bein Sport Connect. Plus d'informations sur carburant.esso.fr. L'énergie est notre avenir. Économisons-la. Esso.
RMC.
Comme je dis souvent, le football, c'est un éternel reprouvement.
Il ne faudrait pas que le doute s'accapare dans nos têtes.
Le Super Football Show.
C'est bien beau de faire des plans sur la comète, mais à force de dire que si... Moi, en tout cas, avec des si, je coupe du bois. Mais...
Jusqu'à minuit, c'est l'After Foot. Nicolas Villas.
Avec Daniel Riolo, avec Jonathan McCarty, sachez, vous qui êtes branchés sur BFM Sport, vous allez le voir, que Simone Rovera nous a rejoint. Ciao Simone.
Ciao,
bonsoir. Ça va Simone ou pas? C'est un long, belle journée. C'est vrai? Pourquoi belle?
Ah oui, pourquoi
que
c'est passé aujourd'hui?
Comme quoi?
Bah, j'étais ce matin à 10h30 sur RMC. J'ai fait la conférence de presse des Touffeux pour Sky Sport Italia. J'ai regardé le match de Serie A. C'était une belle journée.
Et qu'est-ce qui s'est passé d'excitant en Serie A?
Bah,
qui te rend aussi joyeux?
On doit commencer ou c'est
non, non, tu commences pas, mais juste tu peux teaser si tu veux. Aborder ouais. ce qu'on va faire tout à l'heure.
Dans les pires matchs des trois derniers mois, l'Inter a décroché une place en Ligue des Champions et c'était incroyable.
La victoire 3-2 face à la Lazio, on y reviendra dans quelques instants. On a fait la vie tranchée de Jonathan McCarty, place à la vie tranchée de Daniel Riolo. Ah oui, attends, avant, j'allais oublier les mecs. On va accueillir Maxence d'abord, pour réagir à ton avis tranché, mon Jonathan. Bonsoir Maxence.
Salut les gars.
Il était
là l'autre jour, Flash S déjà.
Ouais, c'est moi. D'ailleurs, j'ai reçu mon maillot aujourd'hui, Daniel, hein, je te remercie.
Ah, très bien.
Alors Maxence, cette quatrième place pour Marseille, est-ce un mal pour un bien, comme le dit Jonathan McCarty?
Ben forcément, c'est un mal pour un bien, parce que comme dit souvent Daniel, pour aller en Ligue des Champions, mais pour faire quoi? Donc on ne sait pas exactement ce que ça aurait donné de toute façon d'aller en Ligue des Champions. Donc autant continuer à la Ligue Europa la saison prochaine, quitte à refaire un parcours comme on a fait, pour essayer d'aller encore plus loin et d'essayer d'aller accrocher la victoire cette fois-ci. Forcément, on est un petit peu frustré parce qu'on est encore un peu à chaud de pas avoir accroché la Ligue des Champions. Mais quand on va se poser d'ici une semaine ou deux et qu'on analysera un peu plus froidement la saison, on verra qu'on finit avec 77 points, c'est le record pour une quatrième. D'ailleurs, c'est le nombre de points, je crois, qu'on avait quand on a fini champion de France en 2010. Donc forcément, 77 points, finale d'Europa League. Donc au final, on fait une saison plus qu'au correct de tous les points de vue, la ferveur retrouvée, niveau comptable, etc.
De toute manière, la Ligue des Champions, moi je maintiens, ça aurait été bien trop tôt. Ça aurait, je pense, plus perturbé l'équipe qu'autre chose.
Alors, Jonathan, je suis d'accord et pas d'accord avec ça. Trop tôt, je pense que personne au club t'aurait dit.
Non, il n'y a pas trop tôt.
C'est trop tôt parce que, mine de rien, ce que ça apporte, tu peux aussi y aller. En fait, ça dépend. Si tu y vas en disant, ouais, je vais. Il faut savoir ce que tu veux et où tu veux. Parce que si tu es troisième de la poule, tu es quand même reversé en Europa League. Ça, c'est une opportunité qui est quand même difficile à laisser passer. Ce qu'il faut pas, c'est y aller, de prendre trois tartes et te retrouver quatrième de la poule. Tu vois, comme c'est déjà arrivé.
Même si économiquement, tu t'y retrouves quasiment.
Tu sais dans quel chapeau t'aurais été? T'aurais été dans le chapeau 4.
Probable, voilà. Chapeau 4.
T'as tapé un groupe de la mort, t'as des joueurs qui sont jeunes, et je pense, il y a plein d'exemples où des clubs avec des équipes qui sont pas forcément prêtes à affronter ce très haut niveau, ça leur prend tellement d'influx. Bah
après, ça peut t'arriver en Ligue Europa, Jonathan aussi.
Ça peut t'arriver
en Ligue Europa, tu peux tomber dans un groupe à la con.
Là où Jonathan a raison, c'est que parfois, ça peut te faire rater ta première partie de saison, ce qui fait qu'en fait, à force de croire que tu vas pouvoir, en fait, après, tu n'y retournes pas, et carrément, t'attends même 2 ans avant de vouloir y revenir, parce que tu rates le podium encore l'année d'après, et ça te met dans la merde, ça c'est vrai, c'est possible. Non, mais là-dessus, je te rejoins. Je suis pas complètement arrêté sur les.
Tu joues pas la Ligue des Champions en étant Toulouse, comme ça arrivait une année, c'est Marseille avec toutes les attentes et la pression médiatique
qui va
avec.
C'est vrai.
Moi, franchement,
c'est bien. Attends, parce qu'on peut voir la chose à l'envers aussi. Ils viennent de faire finaliste de Ligue Europa. Tu crois pas que les mecs, la saison prochaine en Ligue des Champions, les supporters vont se dire, l'année dernière, on fait finale, là, minimum, faut qu'on fasse demi.
T'as une
pression aussi, tu
vois. Mais Nico,
je sais pas.
Mais Nico, franchement, l'OM, le problème, c'est que c'est particulier. Toi, tu dis ça, mais après, entre pression médiatique, attente des supporters.
Moi, je te parle des supporters.
Oui, mais ça te perturbe quand même. Si t'es pas, si effectivement tu te retrouves dans un groupe de merde où t'arrives même pas à faire 3 pour être versé, finalement, t'as perdu jusqu'à décembre avec tes 6 semaines où t'es accaparé par ça. Tu perds des points en championnat. et ça se trouve après tu reviens plus pour être sur le podium dans l'année où normalement t'aurais dû y être quoi.
Il y a un élément que t'as pas évoqué quand tu disais c'est un mal pour un bien finalement, et c'est l'argument qu'avance Jacques-Henri Hérault. Alors certains vont dire que c'est démago, moi je trouve ça finalement très rationnel, mais c'est ce qu'il dit, c'est que finalement ils sont surtout en avance sur leurs objectifs. C'est surtout ça le principal
sur l'objectif, plutôt sur les temps de passage
ça,
de la progression.
Sur l'objectif qui s'était fixé, sur le budget.
Sur la progression.
Ils sont un petit peu en avance, oui, il est vrai.
Maxence, vas-y, pardon, je t'ai coupé.
Ouais, non, et puis faut le voir aussi d'un point de vue sportif, parce que l'aspect financier cette année par rapport à la Ligue des Champions ne marche pas vraiment, dans le sens où notre parcours en Europa League nous rapporte une petite vingtaine de millions au final. Donc la qualif en Ligue des Champions, on dit que c'est une trentaine de millions, donc c'est peut-être aussi pour ça que Jacques-Henri Hérault a dit que c'était peut-être pas l'objectif au final. Que c'était pas primordial d'aller
en fait, c'était pas budgété.
Maxence, il est difficile. C'est pour ça que j'ai pas les idées totalement claires là-dessus, parce que d'un côté tu dis bon, si t'y vas, t'acquiers de l'expérience sur les gros matchs, mais ça peut aussi, comme on l'a dit, te griller. Donc en fait, c'est un peu ambigu la position par rapport à ça.
On va se rappeler
l'aspect pétasse quand même.
Et l'aspect pétasse, c'est
parcours,
très important
le
aussi.
En Ligue des Champions, dont tout le monde se moque, avait dans cette poule avec Arsenal, Dortmund et Napoli. Ça a plombé la saison de l'OM.
Oui, non, mais bien sûr.
Il y avait des joueurs d'une.
Le seul véritable inconvénient au final, ça va être le recrutement.
Oui, bien sûr, oui.
Ouais. Merci en tout cas, Maxence, de nous avoir appelé.
Il n'y a pas de souci.
Bonne soirée, à bientôt, Maxence.
Merci, aussi.
Salut, ciao. Allez, on passe à la vie tranchée de Daniel Riolo.
Daniel, il le dit, bon, il a répété un peu mes propos, hein, parce que ça, je l'ai dit il y a très longtemps.
Daniel, souvent, s'inspire des plus grands.
Bah là, oui, c'est le cas.
Voilà. Daniel s'inspire des plus grands. Et quelle est l'inspiration de Daniel ce soir? Quel est ton avis tranché?
Oh, ça va être très violet, simple, parce que j'ai commencé, hier soir à en parler. Il était tard, il était quasi une heure du mat. Exactement. Une heure du mat, pas du mart, du mat. Effectivement, à ce moment-là, on était en pleine soirée disco. Et j'ai vu passer un tweet aujourd'hui qui m'a un petit peu inspiré sur le sujet, et une comparaison qui m'a amusé. Donc je vais parler de Lyon et de ce qui s'est passé hier soir au sortir du match, et de ce qui devait être une fête fantastique puisque Lyon avait enfin accroché le podium. Évidemment, l'un des premiers à venir parler, c'est comme d'habitude le président du club. Et c'est vrai que j'ai aimé cette comparaison que j'ai lue aujourd'hui. Il me fait de plus en plus penser à Monsieur Burns dans Les Simpsons.
Pourquoi?
Sur Michel Hollas.
Physiquement,
tu sais, le patron un peu
aigri,
acariâtre, qui devient méchant avec tout le monde et qui se fait détester de tous. Et c'est terrible parce que encore une année va démarrer la prochaine saison et on entendra le grand président, le président qui a fait tant de choses, le machin, sauf que les années passent et que on attend toujours que Lyon revienne. Alors là, ils reviennent en Ligue des Champions. Très bien. C'était une bonne nouvelle hier. Les premiers mots pour déglinguer l'OM, pour se moquer de l'OM, pour dire en une semaine, ils ont tout perdu là. Donc t'imagines l'aigreur qu'il a fallu... déversé à ce moment-là et tout ce qu'il a fallu encaisser, de voir Lyon accueillir Marseille pour jouer sa finale d'Europa League. Il a commencé l'année, l'été, en déglinguant le PSG dans tous les sens, prêt à s'allier avec les dirigeants des pays étrangers contre le PSG, ce qui ne se fait dans aucun autre pays où les dirigeants se font peut-être la guerre sur le terrain, mais en coulisses et dans l'économie surtout pas, parce qu'il faut s'allier pour que le championnat de France soit fort. Il commence, il déglingue le PSG et il termine l'année dans un grand écart fantastique en déglinguant Marseille dès qu'il en a l'occasion et en allant se moquer hier du fait qu'il termine devant l'OM. Écoute, moi je ne comprends pas. Ça fait.
Après, il en a pris plein la gueule, hein, avec cette fameuse chanson.
D'accord, moi je ne cautionne pas tout ce qui est acte de violence et tout, mais le premier à allumer le feu, c'est qui tout le temps? C'est qui tout le temps qui a le briquet à la main? C'est qui tout le temps qui a le lance-flamme? C'est lui en permanence, tout le temps. Moi on me dit à un moment, à chaque fois, ouais mais c'est sa com, ça fait que vous vous occupez de lui et tout. Mais attendez, au bout d'un moment, quel avantage il tire de tout ça? Il a mis l'entraîneur dans une position...
Final, le fait est qu'on en parle, la preuve, encore ce
mais
soir.
Hein, peu importe qu'on en parle.
Non, mais je te
aujourd'hui, c'est devenu le club le plus détesté. Il a un entraîneur qui a fait la gueule hier soir, qui a vécu une sale soirée, alors que normalement, c'était une bonne soirée.
Ouais, il l'a dit,
Il y a des supporters lyonnais qui mettent des banderoles alors qu'ils terminent troisième, parce qu'ils sont déçus de plein de choses qui s'est passé cette année. L'ambiance, elle est pas saine. Venez pas me dire que l'ambiance est saine à Lyon. Il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui est il y a un verre dans le fruit aujourd'hui.
Contre Jean-Michel Aulas,
mais oui, il y a un verre qui est dans le fruit. Il faut que ce club retrouve de la sérénité. Ouais. C'est moi, attends, moi, enfin vraiment. Alors je sais qu'évidemment ça va exciter beaucoup de supporters lyonnais qui vont encore me tomber dessus. Mais une bonne fois pour toutes, comprenez que ce soit pour Lyon, pour Marseille. Alors je veux bien passer qu'on va dire ouais, tu donnes des leçons et tout. Il se trouve que notre métier c'est de parler chacun le sien. Le nôtre est pas terrible, je sais. Il plaît pas à beaucoup de monde. Mais moi, ce que je veux, c'est que nos clubs français soient forts. Et je crois pas que Lyon peut y arriver comme ça. Pas seul contre tous, avec un président qui tape sur tout le monde, y compris... Alors là, maintenant, il protège Genesio, mais au début de la saison, c'était le contraire. La situation dans laquelle il est aujourd'hui, l'entraîneur de Lyon, c'est pas nous qui en sommes responsables. 80% des médias l'ont plutôt défendu. Qu'on vienne pas dire que les médias ont été durs avec Genesio, c'est faux. Celui qui l'a mis dans cette situation inconfortable, c'est le président. Et là, aujourd'hui, grand écart, je déglingue le PSG, je déglingue l'OM. Mais où est ton salut?
On est sympa, on a même fait ses compositions d'équipe à Genesio.
Voilà. Où est ton salut? En fait, tu cherches quoi, finalement? Hier soir, après une troisième place comme ça, à dire, ils ont cassé le stade. Bon, il y a eu des incidents qui ont peut-être...
On l'a entendu sur les incidents à Lyon là qui vont aller en commission le 31
mai. Deux choses l'une. C'est ça qui est bizarre. Des incidents, peut-être, il y en a eu, et c'est vrai qu'ils ont... Dans l'euphorie et tout, peut-être qu'on en a pas assez parlé. C'est possible. Les incidents de Lyon pour lesquels ils vont passer également devant la commission de l'UEFA. Ça aussi, ça n'a pas été beaucoup évoqué, cher Millionnet. Voilà. Bon, quel est le but en fait aujourd'hui? Comment tu vas faire avancer ton club? Nous, c'est ça qu'on veut savoir. Plutôt que de faire le suspense sur ton entraîneur que t'as flingué mais que maintenant t'adores, les supporters qui un jour t'étais avec eux, un jour ils te contestent, les clubs. Enfin, mais là Marseille c'est une déclaration de guerre. Quel est le but? Avec Marseille il veut aller jusqu'où quoi?
Bah, ce qui est dommage c'est qu'au final les choses se sont plutôt bien passées finalement à Lyon alors qu'il y avait beaucoup de craintes au niveau de l'ambiance et que derrière on va dire ils ont fait caca sur les sièges.
Nico, tu connais les excès du clubisme au Portugal.
Ton image de Mr. Burns, juste petite parenthèse, c'est le surnom que le président du Sporting, qui en ce moment vit des moments très compliqués du côté du Sporting, donnait à un dirigeant du Benfica.
Ah, mais tu vois, je ne savais pas.
Non, je te le dis, il l'appelait
Mr. Burns. Sauf que je ne sais pas encore je ne sais pas qui est Smithers, mais il va transformer Genesio en Smithers.
Pour répondre à ta question, Daniel, très précisément, quel est son but? Alors, le problème, c'est que Jean-Michel Aulas, on est tous d'accord que si on regarde ses accomplissements et son travail, c'est le plus grand préhistoire de l'histoire du football français. Je pense qu'il y a très peu de débats à avoir là-dessus pour ce qu'il a fait, la manière dont il a
publié. Le passé, c'est le passé. Si ton môme, il a été extraordinaire en primaire et qu'au collège, il est bidon.
Le problème qu'il y a, je pense que c'est un problème d'ordre, alors c'est peut-être un peu fort, mais un problème d'ordre psychologique. La tentation de la toute-puissance, je pense qu'il a vu débarquer dans la cour de récréation le Qatar, il a vu débarquer Monaco, et on l'a un peu descendu de son piédestal et de son trône, et c'est quelqu'un qui, à mon sens, n'accepte pas ça. Je pense qu'il a un ego qui est démesuré.
Ah, donc tu veux dire quoi? Tu veux dire qu'aujourd'hui, il y a le PSG qui est intouchable pour lui, t'as l'OM qui sort de nulle part, qui fait finale de Coupe d'Europe, ce qu'il a jamais fait, et Monaco, qui l'année dernière a brillé en Ligue des Champions.
C'est une crise d'ego.
Détestable. Ok, mais quel est le but de se rendre aussi détestable?
Non, mais là, c'est même pas la détestable.
Aujourd'hui, il y a tout le président de Ligue 1 qui lui parle.
Non, mais là, c'est même pas de la détestabilité.
À part Sadran, plus personne ne lui parle.
Mais là, c'est même plus de la détestabilité. C'est que là, c'est de la provocation, même. C'est-à-dire, là, on n'est même plus dans le truc de se dire, les gars, tu vois, à la limite, tout à l'heure, tu parlais de ça. À la limite, tu vois, on disait souvent, Mourinho, il aimait bien aller sur le terrain, il s'attirait les fous des supporters adverses, des adversaires.
Mais Mourinho, c'est pareil, Nico. À un moment, on a compris la finalité et ça a marché. Sauf qu'à un moment, il a basculé et on comprenait plus.
Mais là, c'était dans la provoque du truc. C'est vrai que c'est pas.
Mais il y avait un but. Il y avait un but, et quand je dis c'est un problème d'ordre psychologique, c'est pas insultant, hein. C'est, je pense qu'il y a aucune justification rationnelle à son comportement. On peut plus mettre ça sous le coup du paratonnerre.
Alors puisque tu parles de psychologie,
je pense juste qu'il pète.
Est-ce que tu penses pas, est-ce que tu penses pas que Jean-Michel Aulas aussi il pète un câble, parce que là ça fait 15 jours qu'il en a pris plein la gueule avec ses chansons, les provocations.
Mais hier il en a rigolé.
Il devrait être au-dessus.
Peut-être, mais peut-être que justement il en a eu plein le cul. Que, pardon pour l'expression, et qu'il a pété un câble.
Il est président. Tu sais ce que ça veut dire, le mot président? Gars, il est président. Il a la stature de président.
Moi, les méfaits du clubisme, je passe mon temps à le dénoncer.
Mais, mais juste une question très simple. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas qu'aujourd'hui, il est en train, il s'est rendu détestable?
Vous trouvez qu'il prend ce chemin de
se rendre détestable?
Mais oui, c'est même pire. Il est en train de ternir tout ce qu'il a fait. Tu vois,
je pense bien sûr. Parce que les années passent et que Lyon, ça fait très longtemps qu'il n'y a plus rien.
Écoutez, là, bien sûr. Juste une réaction.
Se faire haïr est la chose la plus extraordinaire au monde.
Vous êtes reconnu ou pas?
Non.
Bah, c'est Mr. Burns dans les Simpsons, voyez.
Ah,
bah... On va accueillir Laurent, qui est supporter de Bordeaux, mais qui veut évoquer et défendre Jean-Michel Aulas.
Oh,
salut Laurent.
Bravo.
Ouais, bonjour, parce que moi, j'hallucine total et je viens de m'apercevoir que Daniel, qui est souvent à contre-courant, mais rejoint la bien-pensance parisienne, comme tout à l'heure dans le même débat qui a eu lieu, où il disait exactement la même chose, à savoir sur CNews à une heure. Et moi, je vous trouve fantastique, quoi. Parce que là, vous tombez sur Jean-Michel Aulas, mais c'est à croire que vous découvrez le football depuis 3 mois. Il me semble que dans les années 80, on a eu des présidents, nous, à Bordeaux, comme Claude Bèze et comme Bernard Tapie. Donc, quand je vois les Marseillais qui tombent sur Jean-Michel Aulas, je crois qu'ils ont un petit peu la mémoire courte. Mais moi, je vous dis, messieurs, ça fait partie du jeu. Moi, donne-moi un président comme Aulas à Bordeaux, mais moi, je me régale. Je vais me régaler. Et hier soir, je vais te dire un petit truc, quand il est tombé droit dessus sur les Marseillais, franchement, excusez-moi, je m'attendais à ça, et c'était de bonne guerre, et
mais
je me suis marré.
Le problème, c'est que le paradigme a changé.
Quel paradigme de
le
quoi?
Le paradigme, bah, le jeu entre les présidents, la manière dont les présidents se comportent, on n'est plus dans les années 90. Il y a des enjeux économiques qui sont bien plus importants. Jean-Michel Aulas est à la tête d'un club qui est coté en bourse. Je pense qu'il doit avoir des responsabilités qui sont bien plus importantes. C'est plus la même chose.
Et c'est de la conne, hein. Et c'est un jeu, le foot. Et les gars.
Non, mais Laurent, excuse-moi, Laurent.
Attends. Quand j'entends dire, oui, il va être détesté de tous les autres présidents. Mais qu'est-ce qu'il en a à foutre? Il défend son institution. Il fait ce qu'il veut. C'est son pognon. Il met son pognon sur la table. Il s'est fait traiter de tous les noms avec un chalanois. Oui, en plus.
Laurent, je pense qu'il y a beaucoup de choses que tu comprends pas, en fait.
Oui, en plus, ils ont fracassé sur le stade. Et bien, hier soir, ils leur ont rien mis de couche au Marseillais. Et puis voilà. Et c'est tout, point barre. C'est de bonne guerre.
Laurent, le problème, c'est que je ne prends pas en compte une chose. C'est que dans les années 90, si on reprend les exemples que tu as cités, bah, Claude Bèze et Bernard Tapie, je pense que ça rendait, leur comportement était quand même intelligible, intelligent et rendait fiers les supporters des clubs concernés. Et là, quand tu vois qu'à l'Olympique
aujourd'hui, il n'est pas suivi par tout le monde.
Les supporters lyonnais qui mettent des banderoles en tribune en disant on veut un président qui arrête de tweeter. Je pense que ça traduit un certain malaise. Je pense que le mot est juste un malaise.
Et Laurent, il y a un truc que visiblement t'as pas du tout compris. C'est que d'abord, effectivement.
J'ai tout à fait compris, là, je te rassure.
Bah non, parce que j'ai pas encore parlé, donc tu vas essayer de comprendre après.
Ce que tu dis, ça sert à rien.
Excuse-moi, bonne soirée, Dieu. Si tu veux pas dialoguer, t'as appelé pourquoi, en fait?
Bah si, mais je t'écoute, mais.
Bah non, tu dis que non.
Vas-y, Daniel.
Donc je te dis que c'est, comme t'as dit, Jonathan, ça n'est absolument pas le même foot, et qu'aujourd'hui, dans le football concurrentiel que tu as en Europe, aujourd'hui, si tu, en 2018, si tu continues à taper sur tes clubs, voisins avec lesquels tu dois aller au niveau européen uni, que tu continues ta petite guéguerre en interne si t'as envie, mais que tu fasses ce qu'il a fait par rapport au PSG, que tu continues à faire ce qu'il a fait par rapport à l'OM qui allait jouer une finale de Coupe d'Europe dans son stade, ça c'est négatif pour le football français, son image à l'extérieur. À l'époque de Tapie et de Bèze, tout ça on en avait rien à cirer. Ça ne comptait pas à ce moment-là. Ça n'est pas du tout le même football. Et en plus, et ça ne veut pas dire, en plus, que les comportements, les petites guéguerres qu'il y a eu entre Bèze et Tapie à la fin des années 80, de toute façon, ça ne veut pas dire que c'était bien. La façon dont Tapie a envoyé à la retraite Bèze, si toi tu trouves ça bien, ben je te laisse ce monde sans problème. Si tu trouves ça bien de lui avoir collé les contrôles fiscaux qu'il lui a collé avec son ami Charas à l'époque, ben écoute, si tu trouves que ça c'est de bonne guerre, je te laisse ce monde et je te laisse cette mentalité et ces valeurs, mon ami. Si tu trouves que Tapie s'est bien comporté à l'époque dans le football, Laurent, ben garde ça. Le dialogue, on peut l'arrêter là parce que on n'est pas du même monde.
Attends, laisse-moi répondre.
On n'est pas du même monde. C'est tout.
On n'est pas dans le même monde, mais quel monde de quoi? Mais comme t'achètes un Mbappé 180 millions et un Neymar 180 millions,
tu viens me faire la morale?
Mais c'est une blague, le truc, c'est une plaisanterie.
Mais quel rapport, Laurent?
Excuse-moi,
je comprends pas ton raisonnement.
Qu'est-ce que tu veux dire, Laurent? Vas-y.
Tu comprends pas, tu parles d'un marché qui est complètement, quoi, mais explosé de n'importe quoi, et tu viens nous expliquer qu'il y a des valeurs, des machins, quoi, des valeurs de quoi,
Mais le marché, il est contrôlé au niveau de l'UEFA par une instance qui va exactement donner et qui a déjà sanctionné le PSG pour ce qu'il a fait. Quel est le rapport?
Le marché s'est libéralisé, mais le problème, c'est que
ton raisonnement n'est habité que par la haine, en fait.
Et le problème, c'est que je te dirai un truc, heureusement qu'il y a un président comme Jean-Michel Aulas, parce qu'on se ferait chier autrement, tu vois, dans le football français. Déjà qu'on s'emmerde la plupart du temps. Et ben, moi, j'ai décidé, ben, tu vois, de prendre de sa défense. Et moi, ça me fait plutôt marrer.
Ah, regarde autre chose, elle regarde une série pour te marrer plutôt que le foot, si tu penses que le foot, c'est ça.
J'espère que t'as Twitter, Laurence, là.
Si tu penses que le foot, c'est ça.
Ouais, Simonet.
Moi, quand même, je le trouve très, très amusant, les tweets de Jean-Michel Aulas. Ça me fait toujours marrer. Après, je suis pas d'accord sur la ligne politique.
Attends, il y a eu des retweets qui étaient pas très drôles.
Mais, non, ok.
Il y a eu des retweets de mecs, c'est vrai, c'est chelou pour un président comme ça.
Mais le problème, c'est que c'est sans limite. Parfois, il y a eu des menaces qui ont été retweetées. Il y a des propos injurieux qui ont été retweetés.
J'ai pas dit que c'était
sans parler d'un président.
Il y a des trucs qui peuvent être marrants. Il met une touche d'ironie.
Ouais, ouais.
Les grands présidents font pas ça. Ça, en Italie, il y a eu des trucs comme ça. Ça a mené où le foot italien, ce genre de conneries-là?
Florentino Pérez, il fait pas ça. Au Bayern, ils font pas ces conneries-là.
Tu vois. Ça n'existe pas.
C'est pas au niveau des André Agnelli, c'est pas au niveau des Massimo Moratti de l'époque. Il y a des présidents comme ça. Je pense au président de la Sampdoria, au président de la
Mais c'est qui? C'est quoi? C'est quoi?
C'est pas la référence.
Simonet, ça n'a rien à voir.
Pour finir,
on a oublié un épisode qui est hyper révélateur de la de ce qui s'est passé avec la cette saison, c'est l'épisode où il met la photo, il prend photo le journaliste là dans l'avion du retour de Moscou. Vous vous rappelez de ça? Qui sont avec la grève des journalistes qui s'enfuit. Ça, c'est franchir une limite qui ne doit pas être franchie. Et il a franchi certaines lignes qui n'auraient jamais dû être franchies. Et là où pour reprendre ce que juste pour finir brièvement, ce que disait Laurent quand il parlait.
Non mais Laurent lui il aime l'époque des présidents qui achetaient les journalistes, qui achetaient tout le monde. Parce que là, il fonctionne comme ça. Il a ses journalistes amis. Il balance le nom de ceux qu'il aime pas. Et ça, c'est
et
Laurent.
Ça, c'est très grave.
Voilà. Mais Laurent aime ce monde-là, lui.
Nous serons.
Il aime le monde de Baisse qui mettait une pression terrible sur les journalistes, qui les empêchait de rentrer dans les centres d'entraînement, les empêchait de travailler. Laurent, il aime ce monde. Laurent, il aime Tapie qui balançait des caméras à la flotte, qui a acheté des matchs et qui a condamné Baisse. Il a condamné Claude Baisse avec des magouilles au plus haut niveau de l'État. Top. Voilà, ça c'est le monde que l'auditeur est venu défendre. Voilà.
On remercie Laurent qui nous a appelé au 32-16, supporter de Bordeaux. Dans quelques instants, nous serons avec un journaliste ami, Simone Rovera, puisque c'était la dernière journée en Serie A.
Et c'est bientôt les vacances pour lui.
RMC, le super football show, l'afterfoot, Nicolas Villas.
Toujours en compagnie de Daniel Riolo, de Jonathan Macardi et de Simone Rovera. Ciao Simone.
Bonsoir.
Alors ce soir, c'est joué aujourd'hui d'ailleurs. La dernière journée de Serie A. Alors il y avait notamment...
avec une finale.
Voilà, il y avait un enjeu. Alors ça c'est assez extraordinaire. Hein. L'Inter et la Lazio donc, se disputaient la dernière place qualificative pour la Ligue des Champions. Et en plus ils s'affrontaient. Alors là où c'est très excitant, c'est qu'en Italie le départage se fait à la confrontation particulière.
Oui, et moi sincèrement je trouve ça très très correct, très équilibré, surtout sur une place qui se peut jouer, bah, même les titres se peut jouer comme ça, donc c'est pas la différence de but totale, mais la différence de but particulière, et c'est ça que donne à l'Inter cette quatrième place, cette retour en Ligue des Champions, une compétition qui manquait.
Ça c'est pas rien, l'Inter 2012. Qui revient en Ligue des Champions quand même.
Depuis 2012, l'Inter n'avait plus joué la Ligue des Champions. Depuis 2014, il n'y avait pas une équipe des Milan, parce que là, c'était la dernière fois que Milan avait participé, donc c'est un grand retour, même si pour la petite porte, on peut dire pour l'instant, parce qu'on n'a pas vu encore qu'est-ce que vraiment arrivera à faire l'Inter à Ligue des Champions, mais il faut parler de ces matchs.
Ils vont se retrouver chapeau quoi, l'Inter? Chapeau 3?
Ça pourrait être 3, voire 4.
Ça fait combien de temps qu'ils jouent pas en Coupe d'Europe? En plus, même en UEFA, ils ont pas pris beaucoup de points.
Ben, ils ont fait des
coups
de UEFA. Je sais pas s'ils ont fait des 16e des finales. Ça va être très compliqué pour l'Inter.
Mais s'ils se renforcent, faudra pas tomber sur eux, quoi.
Ça peut être quand même une équipe compliquée pour des grandes équipes qui vont
se rencontrer. Mais en plus, les Chinois, ils vont investir. Mais ils vont avoir une limite.
Icardi va rester.
Ah bon?
Après la qualification, ça devrait être fait. Lui, il a dit ce soir, je dois parler avec le club, mais quand même, là, il y aura une revalorisation. L'Inter avait déjà offert une revalorisation. Après la qualification, il marque quand même un but important. Ce soir, Icardi, il gagne un penalty, il marque le but. Donc, ça montre encore plus quel joueur déterminant il est pour l'Inter. Il est arrivé à 29 buts en égalisant Ciro Immobile. Les deux sont les meilleurs buteurs de la saison. Ça montre que c'est un joueur quand même qui a une certaine importance pour l'Inter.
Ah, et ça fait peut-être la porte de sortie pour Pastore, du coup, depuis le temps qu'il traîne avec l'idée de l'Inter.
L'Inter, quand même,
a eu cet hiver un prêt avec option d'achat Rafinha qui est très important dans la deuxième partie des saisons. Il a cette option d'achat sur les 30 millions pour l'ancien joueur de Barça, pour les joueurs de Barça, et la qualification en Ligue des Champions qui rapporte 40 millions à l'Inter devrait faire en sorte que l'Inter garde Rafinha. Pour parler de match, parce qu'il y avait une histoire incroyable dans ce match, et c'était le match de Stéphane De Vrij.
Ah oui, c'est vrai.
Signé,
raconte cette histoire.
Les contrats pour l'Inter, ça faisait des mois qu'il était en accord avec l'Inter.
De Vrij, c'est un joueur de la Lazio, et il est d'accord depuis longtemps pour aller jouer à l'Inter.
Défenseur de la Lazio, meilleur défenseur de la Lazio, et un des 3-4 meilleurs défenseurs du championnat.
Depuis, c'est quand même particulier. Je suis le coach, je sais pas si je le mets.
Il était en fin de contrat. Fin février, mars, il donne l'accord à l'Inter. Il y a quelques jours, on peut dire il y a 15 jours, l'Inter officialise en déposant à la Ligue du football les contrats de De Vrij. Selon l'Inter, ça a été fait beaucoup plus tôt, mais l'information officielle, on peut dire, les contrats ont été déposés, c'est sorti il y a 15 jours. Qu'est-ce qui se passe? Bon, on arrive à cette finale. De Vrij doit jouer ou pas? Jeudi, il y a une confrontation entre De Vrij et son entraîneur. Et lui dit, je veux jouer, je me sens capable de jouer, je vais donner les maximums ce soir.
Mais le club dans lequel je vais aller l'année prochaine, je vais le battre, il n'ira pas en Ligue des Champions. Et c'est celui que je quitte qui va y aller.
Voilà.
Je suis coach, je ne le fais pas jouer.
Voilà.
Clairement, je le fais pas jouer.
Qu'est-ce qu'il fait De Vrij?
Tu fais quoi, Jonathan?
Attends.
Moi, je le fais pas jouer, évidemment.
Moi aussi, je pense que c'était un choix compliqué, mais.
Parce que là, t'imagines comment tout le monde va analyser son match.
C'est ça,
et notamment le dernier corner, son placement sur le dernier.
Non, mais c'est pire.
Parce que, mais c'est la manière aussi, c'est ce que les gens vont penser.
On part d'un match que la Lazio a dominé jusqu'à la 60e minute. Après, il y a une petite baisse de régime. 2-1. 1-0 pour la Lazio. 1 partout.
2-1.
2-1 pour la Lazio. Et 2-2, c'est penalty et c'est faute de De Vrij sous Icardi.
Oh non!
Et donc, c'est
les pires scénarios
possibles,
ça.
C'est pour la Lazio un peu.
Mais attends.
Une belle équipe, quand même.
En même temps, t'as raison, il faut pas qu'il le fasse jouer.
C'est un truc, même si le gars, il a des bonnes intentions, il suffit de ça.
Le penalty, à mon avis, c'est inévitable. De Vrij fait une faute, mais Icardi, allait marquer. À la fin du match, il sort sur les deux partout, donc les troisièmes buts arrivent avec quand De Vrij est sorti. Mais après, il y a les larmes de De Vrij, détruit par sa faute, détruit par la manque, pour la qualification ratée de son équipe en Ligue des Champions. C'était une situation compliquée et Simone Inzaghi a décidé de faire confiance à son meilleur défenseur. Il y avait déjà Luis Alberto qui manquait. Immobile est rentré des blessures et il n'était pas au top. On l'a vu, il a fini très mal les matchs. Il est sorti sur les 2-1 quand même pour la Lazio, mais il n'avait plus rien à donner. Donc, Inzaghi a décidé de faire confiance à son joueur cadre. Malheureusement, cette confiance n'a pas été gagnante.
Est-ce qu'il va y avoir des conséquences au niveau des chaises musicales des entraîneurs? Alors que ce soit à l'Inter ou alors surtout à la Lazio.
Spalletti, il fait quoi?
Spalletti devrait prolonger. Non, ouais.
Parce que j'ai tiré une info. Moi. Tu sais que Sergio Conceição est annoncé dans les deux clubs. Il paraît que l'Inter et la Lazio l'aiment bien. Il a assisté au match ce soir.
Peut-être qu'ils l'ont suivi.
C'est parce qu'Inzaghi va partir.
Alors. Les chaises musicales,
il est très bien vu dans les deux clubs.
C'est ça où il a joué, la Lazio.
Il a joué dans les deux.
Dans les deux clubs, il a joué.
C'est la Lazio, le club pour lequel il a le plus joué.
Simone Inzaghi est recherché par deux clubs. La Juve et Napoli.
Ouais, mais Allegri va rester.
Si Napoli change d'entraîneur, Ancelotti, c'est, il y a des négociations. Si jamais n'aboutit pas, quand même, c'est une option. Donc, je peux dire que oui, ça peut être une belle option. Je sais pas quelles sont les relations des agents de Sergio Conceição. Quand même, il y a Mendes qui a fait des bonnes affaires avec la Lazio dans les derniers étés. Je sais pas. Je pense qu'il est plus côté doyen que Mendes. J'ai l'impression que
c'est fini, doyen. C'est terminé. Okay. Non, mais Conceição, c'est pas doyen. C'est Donofrio depuis le temps où il a quitté Porto. Il a été avec doyen.
Il est italo-belge?
Ouais. Ils sont très 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 proches.
Donc quand même, Donofrio avait fait des affaires avec la Lazio.
Il a fait des affaires avec tout le monde, je crois.
Donc pourquoi pas.
Oui. Ouais.
Mais
Simone
Inzaghi, Simone Inzaghi est très recherché.
Ouais, c'est vrai, surtout en Italie. Ils ont fait une belle saison quand même. C'était une des équipes qui jouait le mieux.
Alors moi j'avais fait un petit mot sur Buffon quand même également, Simone.
Oui. Buffon qui a fait cette fête d'adieu, on peut dire hier.
C'était hier.
Son dernier match avec la Juve a été une belle fête, beaucoup de larmes. Il y avait cette image toujours romantique de la pluie et tout, on ne sait pas si c'était seulement de la pluie ou si c'était
ce sont les nuages qui pleurent.
Ouais. Voilà, c'est les nuages qui pleurent, voilà, encore de la poésie. Je trouve que ça a été un adieu très différent des grands adieux qu'on a vécu dans les dernières années, très différent de celui de Del Piero, beaucoup différent de celui de Totti, on ne peut pas faire des comparaisons. Parce que pour Totti, il y avait vraiment un peuple romain qui perdait les symboles.
Ah, c'est pas la même chose.
C'est pas la même
Totti pour la Roma, c'est pas Buffon à la Juve.
Il a fait toute sa carrière là-bas, oui. Totti.
Oui, mais
oui, puis
la Juve
a plus
un symbole de grand symbole.
Ça va au-delà. Buffon n'est pas de Turin, enfin c'est pas un Juventus.
La Juve a perdu un grand joueur, mais j'ai trouvé qu'il a été beaucoup plus émouvant.
Même Del Piero est plus Juventus.
Oui, la Del Piero. Mais la Juve qui perdait un grand joueur. Voilà, c'était l'adieu d'un grand joueur. Avec des sentiments, oui, mais c'était pas encore brisé. La Juve va continuer à jouer. C'est pas les plus grandes histoires joueurs de l'histoire de la Juve. C'est probablement le plus grand gardien, même s'il y a eu quand même un certain
Dinozov,
qui est incroyable. Mais après, on ne sait pas si c'est l'adieu définitif du football, ça on l'a déjà dit, ou si Buffon va continuer cette année, la prochaine année quelque part. Les journalistes italiens, moi aussi compris, qui étaient à la conférence de Tuchel, ont bien pensé de poser la question, et Tuchel n'a pas fermé la porte quand même.
Le président a dit qu'Araola sera le numéro 1.
Ouais, après.
Tiens, puisque t'évoques.
Il n'a pas dit qu'il viendra pas.
Puisque t'évoques Thomas Tuchel, des petites infos là que Jérôme Thomas vient de nous faire parvenir, ça nous vient de Saber Desfarges. Alors tout à l'heure, t'étais un petit peu ému de savoir que Thomas Tuchel avait rencontré Neymar, mais pas les autres joueurs du Paris Saint-Germain, et notamment Cavani. Alors sache que justement, il va se débrouiller pour les rencontrer dans les prochains jours. Voilà, c'est Saber qui nous fait parvenir l'information. Voilà.
Les internationaux français.
Alors, il va rencontrer d'autres joueurs, notamment avant le début de la Coupe du Monde. L'Allemand est à Paris la semaine prochaine, avant de retourner dans son pays, entre autres, pour différents rendez-vous. Voilà, il y a pas mal de rendez-vous qui sont.
Comprendre, c'est qu'il allait voir les internationaux français.
Oui, alors pas que les Français visiblement, okay. C'est les internationaux tout court.
On fait confiance, c'est bien alors.
Petite information également qui nous vient. Alors on vous rappelle que l'AC Ajaccio jouera le barrage d'accession en Ligue 1 face au TFC mercredi et dimanche prochain. Alain Orsoni a déclaré en interview qu'il allait démissionner de son poste au conseil d'administration de la Ligue pour dénoncer les décisions de l'arbitre de ce soir et le pénalty sifflé contre Coutadeur, qui était avec nous tout à l'heure dans l'after d'ailleurs, Mathieu Coutadeur.
Dans la mesure.
Info importante également puisqu'on évoquait les mondialistes. Ousmane Dembélé a été victime d'un violent tacle face à la Real Sociedad. Il est sorti à la 54e minute, à la 42e, alors qu'il avait une action. Il y a Raúl Navas qui l'a violemment taclé, il a été touché à la cheville droite, donc ce sera à suivre dans les prochains jours. Voilà. Okay. Dans quelques instants, messieurs, petite after story sympa. On sera avec le speaker du FC Nantes, enfin le futur ex-speaker du FC Nantes, 40 ans de boîte avec les Canaries. Dans quelques instants, Yannick Bigot sera avec nous en direct dans l'after. A tout de suite.
RMC, le super football show, l'after foot, Nicolas Villas.
Toujours en compagnie de Daniel Riolo, Simone Rovera et Jonathan McCarty, bien entendu. Messieurs, je vous demande d'accueillir Yannick Bigot, speaker du FC Nantes, jusqu'à cette saison, voilà, qui vient de tirer sa révérence, 40 ans au service des Canaries. Bonsoir Yannick, merci d'être avec nous dans l'after.
Bonsoir.
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 Alors 40 ans en tant que speaker au FC Nantes. Alors première question, pourquoi arrêter Yannick?
Parce que ça fait 40 ans.
Voilà une réponse qui est bonne.
Bah, ça fait même un peu plus, ça fait 40 saisons, donc c'est 41 ans, puisque j'ai commencé en la saison 77-78. Voilà, et je voulais arrêter sur 40 ans, puis on m'a dit, ben non, on fait 40 saisons, ce sera mieux. Ça arrangeait le club, donc j'ai accepté de finir, voilà, parce qu'à un moment, il faut tourner la page, je pense.
Et comment on devient speaker? Ça vient où? C'est quoi? C'est une opportunité, une passion?
Ah ouais. Bah c'est par hasard. Bah la passion, la première passion, c'est le foot. La deuxième, en même temps, c'est le FC Nantes. Depuis toujours, j'étais dans les tribunes avant, passionné du club, du FC Nantes, de ce que je voyais. Et puis par hasard, c'est un ami photographe qui m'a dit, parce que je m'amusais un petit peu au micro pour des promotions commerciales, des trucs comme ça, qu'on recrutait, on changeait de speaker ou d'animateur à Nantes. Et puis on m'a dit, pourquoi tu vas pas? J'ai dit, bah moi je fais ça vraiment pour rigoler. Et je me suis retrouvé en audition avec deux ou trois gars. Voilà, et j'ai été pris. C'était René Dedoyant, l'ancien gardien de but du FC Nantes, qui était s'occupait de la promotion du football club à l'époque de Nantes. Voilà, qui nous a écoutés dans un stade vide, stade Marcel Saupin, sans spectateurs, sans public.
Un
voilà,
test, quoi.
Qu'on fasse une animation. Voilà, un test.
Un casting.
Et voilà, dites-moi, Yannick. Est-ce que durant toutes ces années, est-ce qu'on peut estimer, comment vous faites pour savoir si à un moment vous êtes devenu un personnage important de ce club? Je sais pas, est-ce que vous avez lié des amitiés avec des présidents, des joueurs? Parce que vous avez toujours été là, donc au fil de toutes ces années, vous avez vu défiler les gens.
Oui, je sais pas si on est important. Moi, je me suis jamais considéré comme quelqu'un de très important, enfin nécessaire, je vais dire. C'était la voix de la Beaujoire qui est connue, Voilà, donc après, effectivement, c'est que des grandes et belles rencontres, hein, depuis le président Fontenot à l'origine, quand j'ai commencé, en passant par des joueurs comme Henri Michel, Maxime Bossis, je veux dire, toute cette génération.
Oui, mais est-ce qu'on existe aux yeux de tous ces gens-là, plus ou moins au fil du temps? Est-ce qu'il y a des gens avec, pour qui vous avez été plus important que d'autres? C'est ça que je voulais vraiment savoir.
Au-delà du speaker, quoi.
au niveau joueur ou au niveau dirigeant?
Oui, par exemple, des gens pour qui vous n'avez pas été qu'un simple speaker, des gens pour qui ça a plus compté, le rapport avec vous, je sais pas.
Si tu veux, ce qui fait que tu penses que tu as une petite importance, c'est qu'on souhaite pas que tu arrêtes, quoi.
Ouais.
Tu as pris de l'importance, tu es connu, reconnu, on sait que tu fais bien le job, je pense, hein. Mais toujours dans la réserve, en faisant ce qu'il faut, monter l'ambiance, faire l'animation. Donc effectivement, il y a des relations un peu privilégiées avec souvent les dirigeants. Effectivement, j'ai connu pas mal de présidents quand même.
Y en a un qui vous a plus marqué d'ailleurs que d'autres ou pas?
Le premier, c'était Fontenot, c'était complètement différent, c'était presque le père de famille, quoi. C'était le président un peu à l'ancienne. Après, il y en a eu beaucoup qui sont passés, qui sont...
Il y en a eu des mauvais aussi, hein, la vérité, il y en a eu des mauvais, hein.
Oui, mais moi, je peux pas dire ça parce que...
Oh, c'est pas grave, on va le dire pour vous.
Hein. Maintenant, vous pouvez le dire. Hein.
Ouais. Non, puis personne n'écoute, donc de toute façon, on est tranquille.
Voilà, exactement.
Hein,
Alors, une histoire quand même, Yannick, parce que Yannick Bigot, hein, donc on rappelle, un speaker du FC Nantes, c'est vous qui avez importé la Hola en France. Faut nous raconter cette histoire, c'est extraordinaire, ça.
C'est extraordinaire. J'ai surtout eu la chance de pouvoir faire la Coupe du Monde au Mexique, avec l'équipe de France, avec l'environnement, hein, tout ce qu'il y avait autour, invité, VIP, quoi, sympa, par une grosse boîte, un gros sponsor, on va dire. Voilà, et je me retrouve là-bas, et puis je vis une belle expérience, une belle aventure, d'ailleurs, comme l'équipe de France. Et puis, au retour, on était au stade, on était à la Beaujoire, pour la petite histoire, lorsque peut-être, je vais pas dire un lien concurrentiel, mais un correspondant de presse, qui s'appelle Roger Pro, le papa de Pascal Pro, que vous connaissez peut-être.
Oui, quand même. La famille, on sait, supportrice de Nantes.
Non, mon ami, qui me dit, à la cabine, on se connaissait, on se voyait souvent, il me dit, tu te souviens, t'as vu ce qu'on a vu là-bas, puisque toi tu y étais, là, on serait pas capable de faire ça en France, et surtout pas à Nantes. Et moi, j'ai dit au micro, on vient de me raconter ça, un journaliste me dit que il paraît qu'à Nantes, on serait pas capable de faire la Beaujoire, qu'on n'est pas un public pour ça, alors j'aimerais qu'on lui donne tort, est-ce qu'on peut essayer? Et voilà, j'ai lancé un top une première fois, bon, c'est parti mollement, deuxième fois, et puis troisième fois, ça y est. Là, on a commencé à tourner, ça a intéressé un peu les médias, ils ont regardé ça, ils ont dit, putain, mais c'est pas vrai. Voilà comment c'est venu, c'était un défi un peu marrant, on aurait pu se planter, mais c'est vrai que la première Ola a démarré peut-être en 86 ou 87, plus en 87, oui, à la Beaujoire, c'est vrai.
Est-ce qu'il y a un but qui a été plus émouvant, plus fort qu'un autre à commenter, à spiquer, justement, qui vous a le plus marqué dans votre carrière?
Il y en a plein, toi j'ai pas pris trop de notes, mais moi je me souviens du début du titre, tu vois, quand tu joues le dernier match, il faut 3 points, et tu es champion. C'est une super émotion et tu annonces effectivement, et tout le monde le sait, que le club est champion, c'est un envahissement de pelouse, c'est un truc comme ça, c'est important. Et puis début du maintien, je veux dire que, parce que moi j'ai eu la chance de vivre les grandes, grandes époques de Nantes, mais aussi la galère quand tu descends Ligue 2, ça c'est pas drôle du tout, mais quand tu l'évites parce qu'il y a un but, tu vois, le but qui te sauve et qui fait que tu vas pas descendre parce que tu prends les 3 points,
c'est la même émotion,
c'est extraordinaire, quoi. Ouais.
Tiens, on va en écouter un, justement, le but 2001, Marama Vairua, souvenez-vous.
Ah là là, la pagaie, oui. Vairua,
attention, c'est l'ouverture du score. Ouverture du score pour le Football Club Nantes Atlantique, avec le désormais célèbre Tahitien Marama Vairua.
Et on entend Yannick Bigot gueuler derrière. Hein. C'était bien.
Yannick, est-ce que vous inspirez, est-ce que vous avez des inspirations dans le monde des speakers? Alors, je sais que dans le foot, il y en a quelques-uns d'assez connus. Peut-être même, est-ce que vous inspirez de speakers d'autres sports? Je sais pas, les mecs à la boxe, les frères Buffer, par exemple.
Alors, attendez, avant d'avoir votre réponse, Yannick, on va écouter celui du Napoli. Tiens, c'est Jérôme Thomas qui nous a trouvé ça. Grosse personnalité, ouais. Paraît-il. Grand cadeau du speaker. Alors qui est l'inspiration
à une époque, on parlait pas autant des speakers hein, Yannick, c'est vrai maintenant c'est on parle de vous, il y a des personnalités, vous êtes un peu un pionnier mais bon il y a eu les
c'est les réseaux sociaux,
on a commencé à s'intéresser à ça au parc, Michel Montana est devenu un peu vedette en Allemagne, il faisait c'est quand on a commencé à entendre les mecs qui faisaient comment on dit merci en allemand, merde.
Danke.
Et les mecs qui font Danke, l'autre Peter, et le public qui répond et tout, c'est incroyable. Il y a la réponse au speaker, alors que, c'est un phénomène qui a pris de l'ampleur au fil des années.
Mais vous aviez un modèle ou pas, alors, Yannick?
Non, moi, ça s'est fait naturellement. Bien sûr, on est un petit peu conditionné par ce qu'on voit à la télé, par ce qu'on écoute, et il y a toujours eu les grands speakers sud-américains où ils en faisaient des caisses et tout. Moi, je trouvais ça très drôle, mexicain ou brésilien, etc., ou italien. Enfin, moi, j'ai jamais fait ça parce que vous savez que c'est Nantes, ça a toujours été un peu familial, un peu machin. On n'en faisait pas trop des tonnes. Mais quelque part, c'est vrai qu'on est un petit peu marqué par ce qu'on voit à la télé, ce qu'on entend à la radio, ça c'est sûr. Et le fait d'annoncer trois fois en montant en pression, en montant en son, le prénom du buteur avec le public qui répond le nom de famille, c'est vrai que on fait tous un petit peu ça maintenant, quoi. J'ai rien inventé moi personnellement.
Et dites-moi, Yannick, vous l'avez dit, vous avez connu des bons moments et des moments, et dans l'histoire récente de Nantes, il y en a eu des pas terribles. Si vous devez sortir une saison où aller tous les 15 jours pour faire votre taf, c'était le pied absolu, c'était la bonne saison, les bons matchs, le jeu qui allait bien, une saison.
Les années 80, juste un petit peu avant 2000, quoi. 98, 99, 2000, où tu fais championnat et coupe, où t'as un trio magique, Wedek, Loco, Pedros, avec un milieu de terrain assez fabuleux derrière.
C'était 95, ça. Après, il y a eu le.
95,
c'est l'année. Exact. Après, il y a eu également, c'est 2000. Non, 2000, c'est Monaco, 2001.
2001. Ils font le doublé, 2001.
On fait le doublé, Mais c'est vrai que 95, moi, c'était pour moi la plus belle saison, parce que tu pouvais prendre un but, c'était pas grave, tu sais que t'en marquerais deux ou trois. Et là, on vivait des matchs décontractés. Alors, ce qui est pas le cas en ce moment, depuis quelques années, on serre les miches, hein. Surtout cette saison, tu gagnes 1-0 ou tu fais 0-0. C'est moins drôle. Mais à cette époque-là, c'était une euphorie. C'était facile d'être animé.
Ouais, parce que plus il y a de buts, plus il y a de taf pour vous.
Et puis la remontée en Ligue 1, ça devait être pas mal aussi.
Tiens, petit cadeau, Yannick. On va se le refaire, ce fameux but de Patrice Loco. Souvenez-vous, avec 90.
Ouais.
Et s'est précipité pour jouer rapidement sur Loco. Loco Pelos. Pelos Loco, c'est fabuleux! C'est extraordinaire! But de Patrice Loco. Un ballon qui n'a pas touché le sol. Énorme qui mène à zéro.
Ah, magnifique, hein.
Ah, mais là, j'ai entendu.
C'était qui l'adversaire?
Ça le fait marrer. C'était qui l'adversaire, demande Yannick?
Je me souviens pas du tout.
Tiens, et juste, j'ai lu une interview de vous, Yannick, dans 20 minutes, où vous racontez qu'un jour vous étiez amusé à tailler Roland Courbis au micro en plein match. Pendant un an de Bordeaux.
Ah ouais, bah je m'étais pas, c'était un petit dérapage, on va dire, parce que Roland Courbis avait chambré, Nantes avait, je pense, on avait peut-être perdu à Bordeaux, je me souviens plus trop bien, mais Courbis avait dit, on en fait des caisses avec le jeu à la nantaise, enfin franchement, il n'y a pas grand-chose à voir, comme il sait faire, hein, Roland, enfin je veux dire, c'était vraiment un truc. Moi j'avais entendu ça, ça m'avait été, il était effectivement entraîneur de Bordeaux. Et puis, il y a le match à Nantes. Voilà, Bordeaux vient à Nantes. Ça a toujours été un petit peu le ce qu'on appelait le derby de l'Ouest. Hein. Et Nantes gagne 3-0. Et sur le troisième but, ben, je m'enflamme, je fais le cri qui tue, et j'annonce à la fin, c'est ça, monsieur Courbis, que je joue à la Nantaise.
Bravo, ça c'est bon, ça.
C'est
de bonne
guerre, c'est bien.
Voilà, et puis je me suis dit, merde, je suis allé un petit peu loin, mais bon, c'était fait, quoi, c'est ce truc. Et, mais quand même, tu vois, c'est des trucs qui travaillent un petit peu, puis on a parlé, on me dit, ouais, t'as fait fort quand même, t'as un petit peu dérapé, bon, bah oui, tant pis. Et il s'est trouvé que la saison d'après, je ne sais pas si c'est arrivé souvent, mais Roland Courbis était suspendu, donc interdit de bande touche, et il monte en tribune. Et il était à côté de ma cabine, voilà, au PC juste à côté, et donc je faisais mon animation, il y avait Roland Courbis qui était à côté, on se regardait, enfin, il n'était pas beau. Et je suis sorti à un moment, je suis allé voir, je dis, écoute, Roland, voilà, je vais balancer une vanne, ça, je suis vraiment un peu désolé parce que c'était un peu déplacé. Oh putain, con, il me dit, on s'en fout de ça, tu parles, c'est rien, j'en ai vu d'autres, c'est rien du tout, ne te casse pas la tête avec ça, il me tape dans le dos. Voilà, voilà comment ça s'est terminé, c'était génial.
Et une dernière question d'ordre technique. Ouais. C'est quoi le temps de réaction entre le but et le début de votre cri? Parce que je sais pas, j'imagine un cas de figure où le but est refusé ou comment vous faites pour pas vous tromper?
Ah bah. Alors, je regarde, je suis très vigilant parce que le public part en quart de tour.
Voilà. Hein,
et je regarde le juge de touche.
Voilà,
tout
ok.
C'est ouais. Le réflexe. Je regarde le juge de touche, je regarde le truc. S'il y a le moindre, si je vois que l'arbitre indique le rond central. Bon, en plus, on a un petit jingle, hein, qui est lancé, donc c'est un peu pratique, depuis 3-4 saisons, avec une musique un petit peu spéciale, qui monte et puis il y a une espèce de cri derrière. Et moi, j'enchaîne sur le cri, donc déjà, il s'est passé, 15-20 secondes, quoi.
D'accord.
Secondes.
C'est jamais immédiat.
Donc, je balance pas tout de suite.
Ouais. Et bientôt, tout ça va être mort avec la VAR. Hein.
Voilà. La vidéo
va tuer votre métier.
Ils vont remplacer Yannick Bigot par un robot.
Voilà. La spontanéité.
Merci beaucoup, en tout cas, Yannick, d'avoir été avec nous.
Même ça, la VAR va le tuer.
Salut, les gars. Écoute, j'étais content d'être avec vous. Bonne soirée.
Bah non, merci à vous. Et Jérôme Thomas, notre producteur, me dit, de toute façon, maintenant, le seul vrai grand club de l'Ouest, c'est le Stade Rennais.
Ah, salaud.
Merci Yannick, bonne soirée, à très bientôt.
Salut.
Salut Yannick.
Ciao. Salut.
Messieurs, nous allons passer au quiz. Oh oui. Oh oui, on va passer au quiz. Alors, premier quiz, alors c'est sous forme d'enchère hein, ce soir. Combien de joueurs ayant disputé au moins 500 matchs en Ligue 1 pouvez-vous me citer? Il n'y a que des retraités et on ne s'intéresse qu'aux joueurs qui ont stoppé leur carrière dans les 30 dernières années. Sachez qu'il y a 13 joueurs au total. Donc combien de joueurs pouvez-vous me citer qui ont joué 500 matchs de Ligue 1 sur les 30 dernières années?
Sur les 30 dernières années, oui. On est en quelle année là? Donc il faut aller jusqu'à quelle...
500.
Il faut aller où alors?
80... 80...
Ouais, mais attends, il a pris sa retraite dans les...
C'est un mec qui est... C'est que des retraités, mais des mecs qui ont joué au moins jusqu'à il y a 30 ans.
Donc,
dernière saison, 87-88.
Ils ont joué leur dernière saison à ce moment-là?
Bah bon, mais non, c'est des mecs, ils ont joué ça ou plus tard. Tu comprends ou pas? Sur les 30 dernières années, des mecs qui comptent 500 matchs de Ligue 1. C'est des noms récents, c'est ça que ça veut dire en fait. Tu vas pas me citer un mec des années 60, tu vois ce que je veux dire, 70. Ni 80, ou fin 80. Un mec qui s'est arrêté, Maxi, 87-88.
Qui s'est arrêté, Maxi?
Ce sera toi contre Simonet et Jonathan. Combien vous pouvez me citer de mecs qui comptent 500 matchs de Ligue 1, messieurs? Ils sont 13 au total, bien entendu, sur les 30 dernières années.
Tu vois, j'ai déjà pas compris.
13 au total.
Ouais. Il y a 13 joueurs qui, sur les 30 dernières années, ont disputé 500 matchs de Ligue 1.
Je pense à lui seulement. C'est le seul que je peux dire.
Et qui ont arrêté leur carrière entre 87 et 88.
C'est vieux ça. Putain, moi j'ai mis des vieux, moi.
T'as mis Chiesa et tout ça, non?
Oh là 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 là.
Voilà, ils sont 13 joueurs au total. Combien vous pouvez en citer, messieurs? 500 matchs de Ligue 1.
Ça, c'est un truc à dire. Ah ouais, et puis quand on les a cités, là.
Il y a des gardiens, forcément.
Oui, forcément. Ouais.
Alors, il me faut un chiffre, messieurs. Combien vous pouvez m'en citer, Jonathan et Simonet? Vous dites combien, vous?
Combien?
Sur 13. Hein.
Sur 13?
Ouais. Combien? Allez, celui qui en dit le plus a gagné.
Allez, on va dire, c'est 4.
4. Daniel, tu peux faire 4.
Le mien, tout le coup, c'est 4.
Si.
Non, moi, je vais essayer de jouer tactique en pensant qu'il va pas y arriver.
Alors, allons-y. 4 joueurs qui ont disputé 500 matchs de Ligue 1 sur les. Sur les 30 dernières années. Allons-y.
Coupé?
Non.
Ah bah voilà. Merde. Il y avait qui, Landreau?
Il y a Landreau, effectivement.
Ouais. Castendutch?
Il y a Castendutch, tout à fait.
Armand?
Il y a Armand.
Et Lama?
Il n'y a pas Lama.
Bon bah on a des 3 alors.
Okay. Il y avait également Jean-Luc Ettori.
Je l'avais. Ah, attends, Dropsy, je l'ai rayé de ma liste. Il a arrêté.
Ah bah non. Dropsy, il arrête en 89. Donc ça passe.
Gires, messieurs.
Ouais. Ah.
Battiston.
Bah, Tigana doit être dedans aussi.
Brisson, non.
Brisson, Tigana, Mats, non.
Ouais. Amis, Bossis, Rust et Sénac.
Ok. Bon, moi, j'ai
en chair toujours, mais ça finit dernier cette saison en Ligue 1. Combien de lanternes rouges de Ligue 1 des 20 dernières saisons pouvez-vous me citer, c'est-à-dire depuis la saison 97-98, il y en a 16 au total. Et on enlève Metz, hein, puisque voilà, ils apparaissent. Combien? Il me faut un chiffre, messieurs.
Des équipes que sur les 20 dernières années ont fini.
Qui ont terminé lanterne rouge. Hein. Pas qui ont été relayés. Sur les 20 dernières années, combien tu peux m'en citer, Daniel, tu
penses? Deux.
Jonathan, Simonet, vous pouvez faire mieux que deux ou pas?
Attends, réfléchis.
Ouais, mais faut aller vite. Non, ne réfléchis pas. Tu peux faire plus que deux ou pas? Tu laisses à Daniel.
Allez, oui, on essaie trois.
Alors allons-y. Allons-y.
Mais attends,
Daniel,
si
tu peux
deux.
Faire trois, tu penses?
Attends, lui, trois, je vais le laisser parce que je les aurai pas.
Il va tout gagner comme
Parce que mine de rien, c'est quoi, les équipes qui descendent, c'est une chose, mais savoir qui était le dernier, c'est autre chose, ouais. C'est la trappe con, donc je vais lui laisser, vas-y. Vas-y.
Donnez-en trois, les gars. Allons-y.
Bah vas-y, il faut y aller là maintenant.
Il n'y a pas Metz, hein.
Reims, Evian Thonon-Gaillard, Ajaccio.
Alors, Reims n'y est pas.
Oh,
Evian Thonon-Gaillard n'y est pas.
N'y est pas non plus, non.
Ajaccio y est. Ah. T'aurais pu me dire Cannes. Voilà.
Trois,
effectivement. Dernier. Toulouse, Montpellier, Strasbourg.
Et Lens a pas fait dernier?
Istres, Lens a fait dernier.
Ah oui, j'avais trois et Lens.
Voilà. Auxerre, Arles-Avignon, Grenoble. Souvenez-vous, cette fameuse saison est catastrophique. Ah ouais. Le Havre. Il y avait Bastia également.
Ah, c'est toujours moi.
Ça va, je gagne par défaut.
Chacun votre tour.
Par défaut.
Chacun votre tour. Vous devez me citer un champion de France avec le FC Nantes 95. Il y en a 21 au total. Le premier qui se plante perd le quiz.
Qui commence?
Attends.
Champion de France avec le FC Nantes en 1995. On était il y a quelques instants avec Yannick Bigot, speaker du FC Nantes.
Là,
non, mais il faut en citer un, chacun votre tour. Allons-y. Allez-y, commencez.
Vas-y,
allez.
Loco.
Loco, c'est bon.
Ouais, facilement.
Daniel.
Pedros.
Pedros, c'est bon.
Wedek.
Wedek, c'est bon. Champion de France avec le FC Nantes en 95, ils sont 21 au total. Il y en a, les gars, ils sont même...
Carambeu.
Exactement. J'allais dire, ils sont champions du monde. Il y a Christian Carambeu, effectivement.
Makelele,
c'est bon.
Ndoram,
c'est bon. C'est bon.
J'ai une connerie là.
Champion de France avec le FC Nantes en 95.
Non, je crois pas, hein. Enfin, cette année-là.
Tu dis quoi, toi?
À un moment, faut y aller, là.
Benoît Coué.
C'est bon.
Ouais. Tu penses que je suis nul, mais je suis pas très bon.
Il a sorti le mec qui est allé à l'Inter.
C'est le mec que je connais, avec qui je parlais de ça.
Martin, FC Nantes, Coué.
C'est à moi, là?
Oui. Mais Daniel, c'est à toi.
David Marot.
Est-ce qu'il y est, Marou? Je pense que oui,
quand même, évidemment. C'est qui le gardien?
Il a joué 14 matchs, hein, cette saison-là. Ouais. Donc, il y a un autre gardien qui a pas mal joué cette saison-là également.
Ah, putain, merde.
Qui a joué plus que lui, d'ailleurs.
Dans l'After Story,
on est pas mal, hein, pour l'instant. Mais il en manque quand même, hein. Il y a des mecs qui sont devenus entraîneurs. Il y a des mecs.
Ah, faut y aller, là, les noms,
Allez, les gars. Allez, les gars. Il y en a un qui a été finaliste. Non, c'est pas lui.
Ils les ont, les noms, ou pas?
Alors? Faut en dire un, les mecs.
Bon, ils ont
FC
Nantes
95.
Bon, ils ont pas.
C'est fini.
Ah, je sais pas, non, j'ai pas.
Si t'en as un, t'as gagné, d'ailleurs.
Bah oui, il y a Ferry, il y a Pujol, il y a Le Dizet, il y a Eric De Croix.
Il y a De Croix, voilà. C'est
ouais,
bon.
T'as gagné.
C'est gagné.
Il y en a combien? T'as gagné.
Voilà. Jamais le premier.
C'est compliqué, là.
Merci, Daniel, qui va enchaîner avec le RMC Poker Show. Merci, Simonet. Merci beaucoup.
Merci, Daniel, pour faire le quiz.
Non, je sais pas pourquoi d'ailleurs, c'est bizarre.
C'est super
du coup, t'as gagné un autre t-shirt de l'after, Daniel. Sache-le. Merci à toutes et à tous, merci à toutes les équipes techniques, merci à Jérôme Thomas, toutes les équipes éditoriales. Bisous, plein d'amour. Ciao, ciao, à demain.
Durant une heure, RMC met carte sur table, c'est le RMC Poker Show.